Alors, chères auditrices et chers auditeurs, je suis content de vous rejoindre pour ce temps d'enseignement. J'ai choisi ce thème « Dieu te cherche », car souvent nous courons derrière Dieu et nous n'apprendons pas assez que Dieu lui-même nous cherche. Donc, je développerai durant ce cycle de formation quelques verbes pour manifester comment à la fois Dieu nous cherche et comment nous-mêmes nous pouvons nous laisser chercher et nous laisser trouver par Dieu. Ces verbes seront le verbe « se connaître », le verbe « se décider », le verbe « discerner », le verbe « résister » et après une expression avec un verbe « rester ancré » la parole, avec un P majuscule, la parole de Dieu. Voilà donc ce que nous allons déployer durant les mois prochains. Donc aujourd'hui, maintenant, je vais vous faire une genre d'introduction générale. Pour ce faire, je voudrais vous rappeler quelque chose que je pense que vous connaissez tous. Vous savez qu'on lit toujours durant la vigile pascale le chapitre 1 du livre de la Genèse, qui est le texte de la création. Et au verset 27, au moment de la création de l'être humain, le verset dit « Dieu créa l'être humain à son image, à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. » Et cette image de Dieu, cette image trinitaire, est pour nous très importante parce qu'elle va être le lieu, le moyen de cette connexion à la fois naturelle et surnaturelle entre Dieu et l'être humain. Entre Dieu et nous, chacun d'entre nous. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous est capable d'Ei, il est capable de Dieu. Il est capable de se laisser trouver, de se laisser chercher, de se laisser toucher par Dieu. Et pour entrer du coup plus dans la réalité de cette expression, je voudrais m'arrêter sur maintenant un peu plus sur un texte que peut-être plusieurs auditrices et auditeurs connaissent, c'est la fameuse vocation du jeune Samuel. Nous sommes dans le premier livre de Samuel, et donc au chapitre 3, le texte nous dit que le jeune Samuel servait le Seigneur en présence du prêtre Élie dans le temple de Silo. Il faut se rappeler que Samuel, c'est l'enfant d'Anne et de Elkana. Que Anne et Elkana n'arrivaient pas à avoir d'enfant. Anne, ça la faisait pleurer tous les jours. Elle suppliait Dieu, que Dieu lui lève cette honte sociale de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et Dieu accomplit son vœu, car Anne avait dit, si jamais tu me lèves cette honte, je t'offrirai, je te consacrerai mon enfant. Et c'est ce qu'elle a fait. Quand Samuel fut sevré, elle confia son enfant au prêtre Élie. Et donc, nous sommes au chapitre 3, le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie dans le temple. Et un jour, donc, vous connaissez sûrement l'histoire, il était couché à sa place habituelle, il est en train de s'endormir, et la lampe de Dieu dans le temple n'était pas encore éteinte par manque de carburant, et Samuel se trouvait près de l'arche de Dieu, c'est-à-dire des tables de la loi. Et il entend une voix qui l'appelle. Samuel, Samuel. Samuel, du coup, répond, voici, convaincu que c'est Élie qui l'appelle. Et donc il se lève, il va toquer à la porte du prêtre Élie, il lui dit « Tu m'as appelé, me voici ». Et il lui répond « Non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». Du coup, le jeune Samuel retourne se coucher. À nouveau, le Seigneur l'appelle « Samuel, Samuel ». Samuel à nouveau se lève et va voir Élie, il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Et il dit « Non, non, je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Et le texte dit au verset 7, cette parole mystérieuse. Le texte dit « Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée ». Cette parole elle est très importante pour notre thème. Dieu te cherche. Te laisseras-tu trouver ? Pourquoi elle est importante dans le contexte de la vocation de Samuel ? Parce que vous rendez compte que depuis que Samuel est sevré, il vit du matin jusqu'au soir auprès du prêtre Élie. Vous imaginez bien que le prêtre Élie a autre chose que de passer sa journée à jouer avec le jeune Samuel. S'il est avec le jeune Samuel, c'est pour lui apprendre le catéchisme de tout enfant juif. Il lui apprend à retenir par cœur la Torah qu'il connaît. Donc il connaît par cœur la parole de Dieu. Il a fait toutes ses initiations religieuses. Donc il est ancré, il est imbibé de cette réalité de la foi juive. Et comment le texte sacré peut-il nous dire que Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et que la parole du Seigneur ne lui a pas encore été révélée? Et c'est là que ça doit nous interpeller sur l'importance de ce thème. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Te laisseras-tu trouver? Dieu cherche Samuel. Mais Samuel, pour le moment, ne se laisse pas trouver. Et on a cet indice-là parce qu'il ne connaissait pas encore le Seigneur et que la parole du Seigneur ne lui a pas encore été révélée. Et nous pouvons comprendre que ce n'est pas parce que nous connaissons par cœur notre catéchisme, que nous avons fait toutes nos communions, que nous allons tous les dimanches à la messe, que nous faisons des pèlerinages, que nous avons des actes de dévotion, que cela signifie qu'automatiquement, on connaîtrait le Seigneur. Cela appelle une autre relation, une autre ouverture que nous allons bien sûr développer durant toutes ces rencontres. Donc, mais revenons à notre texte, à notre récit de vocation. Et de nouveau, le Seigneur appelle Samuel. Samuel, de nouveau, va voir Élie. Et cette fois, Élie comprend que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et là, écoutez bien, là, Élie dit à Samuel, « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, il appelle une autre fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répète la phrase qu'il a apprise sûrement par cœur, avec beaucoup sûrement d'angoisse, d'exaltation. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et là, le Seigneur dit à Samuel, voici que je vais accomplir une chose en Israël, à faire teinter les deux oreilles de qui l'apprendra. Et c'est comme cela que Samuel devient le prophète du Seigneur. Arrêtons-nous du coup, toujours pour comprendre que Dieu nous cherche, et de commencer à comprendre comment Dieu nous cherche, arrêtons-nous sur cette phrase que le prêtre Élie apprend au jeune Samuel. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Je suis convaincu que si on perdait toutes les Bibles du monde entier, qu'elles étaient toutes détruites, qu'on perdait toutes les Bibles sur nos téléphones portables, sur nos ordinateurs, qu'on n'ait plus aucun texte biblique. Je suis convaincu que cette simple phrase du prêtre Élie, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute », permettrait de reconstituer toute la Bible, du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse. Car il me semble que nous avons là le fil rouge constitutif de tout ce qui est la révélation divine, qui nous cherche et qui attend de chacune et de chacun d'entre nous cette réponse. Parle, Seigneur, ta servante écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et lorsque nous abordons de près une vie d'un saint ou d'une sainte, et quelle que soit la vie du saint ou de la sainte, à un moment précis de sa vie, il y a eu, avec les mots de ce saint ou de cette sainte, il y a eu cette réalité que Samuel fait sienne sur l'enseignement du prêtre Élie. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Rappelons-nous le point de départ, c'était Genèse 1, 27, Dieu qui crée l'être humain à son image et qui fait que nous sommes habités et constitués par cette empreinte divine qui fait que la parole de Dieu, elle est audible, mais pas audible justement à travers nos connaissances intellectuelles, si bonne soit-elle et si belle soit-elle, et qui fait qu'encore une fois, ce n'est pas parce qu'on connaît par cœur le catéchisme, qu'on connaît tous les sacrements, qu'on connaît toutes les prières, qu'on connaît par cœur les symboles de la foi, que cela signifie qu'on le connaît de cette connaissance qui est liée à cette empreinte divine que tous et toutes nous portons. Or, quand Dieu me cherche, c'est pour nous rejoindre au plus intime de cet acte créateur qu'il a eu en Genèse 1, 27. Et Élie l'a compris, et c'est pour cela qu'il lui donne la clé qui lui permet d'ouvrir les portes pour se laisser trouver par Dieu. Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. Alors, parle. Dieu, il est verbe, il est parole. Et être un disciple du Seigneur, c'est se laisser toucher par ce verbe, par cette parole, qui, encore une fois, n'est pas avant tout, ou n'est pas uniquement une parole intellectuelle, mais c'est une parole qui atteint notre âme, qui atteint notre cœur. Un peu à l'image, vous savez, du livre des Cantiques des Cantiques. Vous savez, au chapitre 2, quand la bien-aimée cherche son bien-aimé, pourquoi il le cherche ? Pourquoi elle le cherche, pardon ? Elle le cherche parce qu'elle se sait chercher par lui. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous dit au chapitre 2, verset 8, alors qu'elle cherche le bien-aimé ? La voix de mon bien-aimé, c'est lui, il vient, il bondit sur les montagnes, il court sur les collines. Mon bien-aimé paraît à la gazelle, au fond de la biche, le voici, c'est lui qui se tient derrière notre mur, il regarde aux fenêtres, guette par le treillage. Il bondit sur les montagnes, il court sur les collines. Voilà comment Dieu nous cherche, voilà comment Dieu cherche le jeune Samuel. Et saint Augustin dira, dans les confessions, c'est Dieu qui lui parle. Dieu dira à saint Augustin, qui le répète dans les confessions, « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. » C'est parce que Dieu me cherche que moi-même, je peux le chercher et le trouver en me laissant trouver par lui. C'est très important, ce texte, cette référence qui fait de nous, les humains, des êtres capax dei et que nous voyons en œuvre dans le livre de Samuel. Car dans le Cantique des Cantiques, pourquoi le bien-aimé s'approche ? Il s'approche, verset 10 du livre des Cantiques des Cantiques au chapitre 2, de verset 10, il parle. Mon bien-aimé, il me dit, lève-toi mon ami, ma toute belle, et viens, fais-moi entendre ta voix. Vous avez vu ? Le bien-aimé, c'est lui qui permet à la bien-aimée de le chercher. Le bien-aimé lui parle pour que la bien-aimée lui réponde. Dieu parle à Samuel pour que Samuel lui réponde. Et là, naît le verbe naître, naît le dialogue intérieur, dans lequel Dieu me cherche, je le cherche, je me laisse trouver par Dieu et je trouve Dieu. Parle. Ensuite, ce n'est pas n'importe qui parle, c'est le Seigneur. Et quand le Seigneur parle, ce n'est pas comme quand mon copain, mon ami, mon époux, mon épouse, mon maître, ma maîtresse parle. C'est Dieu qui parle. Et face à Dieu qui parle, je me tais. pour écouter. Écoute Israël. Écoute, ça veut dire fais silence en toi pour laisser vibrer cette empreinte divine que tu portes afin de sentir que Dieu te cherche et que toi, du coup, tu peux le trouver et te laisser trouver par lui. En même temps, nous sommes ses serviteurs et ses servantes. Et en étant ses serviteurs et ses servantes, non seulement nous l'écoutons avec notre intelligence, non seulement nous l'écoutons de toute cette intimité de notre âme, de notre cœur, mais surtout nous l'écoutons pour faire que ce qu'il me dit devienne parole de vie, comme avec l'exemple de Samuel qui justement, eh bien, devient prophète du Seigneur. Prophénie, porte parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il met sa parole humaine avec ses capacités et incapacités, avec ses qualités et ses défauts, avec sa brillance et ses limites. Il est mis au service pour qu'à travers sa parole humaine, ce soit la parole de Dieu qui soit transmise. L'homme est katax dei, mais nous allons voir que nous allons aller plus loin dans la recherche de Dieu, car Dieu s'est fait capax homini. Capax hominis. Dieu s'est fait capable des hommes. Donc nous continuons à développer cette introduction sur l'importance que nous commençons à avoir et à comprendre sur le fait que Dieu me cherche, que Dieu nous cherche. On est parti du fait que Dieu nous a créés capables de lui, mais Dieu aussi se fait capable de nous les hommes. Nous le savons, le Verbe s'est fait chair, le Verbe s'est incarné. Et Tertullien dira que la chair est la charnière du salut. La chair humaine est la charnière du salut. C'est dire que c'est l'humanité de Jésus et c'est par l'humanité de Jésus que nous avons accès au salut éternel, que nous avons accès à Dieu. Voilà. Et ça, il faut bien le prendre au sérieux parce que nous en trouvons déjà les germes dans l'aventure du jeune Samuel. Lorsque le prêtre Élie lui parle en lui disant « Retourne te coucher, et là, si tu entends la voix qui te parle, qui t'appelle, tu diras « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Bien, Élie devient l'incarnation de la volonté de Dieu. Mais nous savons très très bien que l'incarnation par excellence, c'est Jésus. Et comme je suis sûr que les auditeurs et les auditrices qui nous entendent vont à la messe tous les dimanches, du coup, ils sont allés à la messe dimanche dernier et nous avons eu un très beau passage sur lequel nous reviendrons le mois prochain pour l'importance de se connaître, mais que déjà j'aborde aujourd'hui à travers cette introduction sur « Dieu te cherche ». Car dimanche, vous rappelez, nous avons lu l'évangile de Saint Marc au chapitre 10, versets 17 à 27. Marc 10, 17 à 27. Vous rappelez, c'est la rencontre entre l'homme riche, qu'on appelle jeune homme aussi, parce que selon la version évangélique, on parle d'un jeune homme. Là, ce n'est pas le cas dans l'évangile de Saint Marc. Mais peu importe. Il vient rencontrer Jésus en lui demandant « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Et en fait, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le contenu du dialogue. On aura l'occasion d'y revenir le mois prochain avec l'importance du verbe « se connaître ». Mais c'est l'attitude de Jésus. Par trois fois, et il est le seul à le souligner, Saint Marc parle du regard de Jésus, du visage de Jésus. D'abord, il commence à propos de cet homme, Saint Marc commence par dire que Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Un peu plus loin, lorsque cet homme semble tout triste, Jésus, dit saint Marc, regarda autour de lui et dit à ses disciples. Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples. Et un peu plus loin, alors qu'ils sont déconcertés par la réponse de Jésus, saint Marc ajoute, Jésus les regarde. Jamais en aussi peu de versets évangéliques, on a autant de fois répété l'importance du regard. Et d'ailleurs, je vous invite à lire l'évangile de Saint-Marc, quand une fois on dit « Jésus s'en alla et dit « Jésus répondit en disant » mais jamais on dit « Jésus regarde et dit, Jésus regarde et dit, Jésus regarde » Là, trois fois en triple de versets, Saint-Marc insiste sur le regard de Jésus, l'incarnation du Verbe. Rappelez-vous le cantique des cantiques. L'importance du regard, de la vision. Fais-moi voir ton visage. Il se tient derrière le treillage et il regarde, il observe. L'importance du voir. Je veux voir Dieu. Le voir de mes yeux, joie sans fin des bienheureux. Saint Thomas d'Aquin développe l'importance du désir naturel de voir Dieu, qui est lié au premier chapitre du livre de la Genèse au verset 27, dont je vous ai parlé. Dieu qui crée l'être humain à son image, à sa ressemblance, et qui met en l'être humain le désir de voir Dieu. Désir naturel, surnaturel, naturel de voir Dieu. Et du coup, quand je dis que Dieu, il est capax hominis, que Dieu, il se fait capable d'humanité, c'est parce qu'il veut rejoindre ce désir naturel par un regard naturel. Et de même que le désir naturel que porte tout être humain vise le surnaturel, et bien de même le regard naturel de cet homme, Jésus de Nazareth, est porteur de toute la réalité surnaturelle. De la présence de Dieu, de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de la paix de Dieu, de la vie de Dieu, de la vérité de Dieu. Et c'est ce regard-là que met en valeur saint Marc précisément dans ce passage. Le regard d'amour de Jésus. Jésus posa sur lui son regard et il aima. Ce regard-là, c'est le regard d'Élie au jeune Samuel. C'est le regard, par exemple, pour développer son importance, de ce regard que, par exemple, un saint Augustin d'Hippone a vécu avec saint Ambroise de Milan. Pourquoi je m'arrête sur cet exemple pour terminer notre introduction, pourquoi je m'arrête sur saint Augustin d'Hippone. Parce que Augustin, même s'il date de la fin du 4e siècle et du début du 5e siècle, il est profondément contemporain. Il est profondément moderne. Il est contemporain et moderne parce que, d'abord, Augustin est d'une famille mixte, comme on dit, un couple mixte. Son père était romain polythéiste et sa mère était berbère monothéiste chrétienne. Donc vous imaginez déjà le contexte de vie familiale dans laquelle le jeune Augustin grandit. La mère voulant attirer son fils vers le monothéisme chrétien et son père voulant attirer son fils vers le polythéisme romain. Donc il faut s'imaginer, aujourd'hui, c'est monnaie courante. Eh bien, saint Augustin l'a vécu. Son père, qui faisait partie de la classe moyenne ou moyenne plus, dès qu'il a eu l'argent, il envoie Augustin à Carthage où il y avait la grande faculté du coup latine, et comme il était brillant, même s'il avait un très mauvais caractère, Augustin, il arrive du coup au terme de ses études, et comme il est encore plus brillant, il est envoyé jusqu'à Rome, où là, son degré d'intelligence et de culture latine est tel qu'il est demandé pour écrire des discours des politiciens de l'époque de Rome. Et comme il est brillant, sa recherche, elle est hyper exigeante, mais surtout hyper mondaine. Mondaine au sens étymologique du terme, c'est-à-dire adaptée à la culture de son temps. Et comme la culture de son temps, c'était le multiculturalisme et la multiplicité des religions, son désir, rappelez-vous, le désir naturel de voir Dieu, il le porte au même titre que les autres êtres humains. Et ce désir, il le fait correspondre, malheureusement, à des objets qu'il cherche dans le monde, qu'il ne fait pas correspondre à Dieu, alors que Dieu le cherche, comme on va le voir, comme je vais vous l'expliquer. Et là encore, c'est l'incarnation de Dieu dans le Verbe, par le Verbe, qui va prendre forme charnelle en Saint-Ambroise de Milan, comme le prêtre Élie a pris forme de la volonté de Dieu pour le jeune Samuel. Mais revenons, donc Augustin, il a soif d'absolu, ce désir d'absolu surnaturel, mais qui malheureusement, il cherche à assouvir dans la mondanité, il se tourne vers toutes les religions, vers toutes les philosophies, le stoïcisme, l'épicurisme, le néoplatonisme, l'aristotélisme, même au niveau aussi il pense pouvoir trouver cet absolu dans le désir charnel, au point d'avoir un enfant avec une femme, mais rien ne le satisfait. Son désir est insatisfaisable, pardon. Et donc du coup, un jour, il se retrouve sur la plage d'Ostie, à Rome. C'est lui qui raconte ça dans les Confessions. Et il était là en train de contempler, sûrement, la plage d'Ostie se trouve orientée plein ouest, c'est-à-dire soleil couchant. Il devait sûrement contempler le soleil couchant, rentrant dans la ligne de mire d'horizon, au fond, dans la mer, et contemplant ce très beau spectacle du soleil qui s'enfonce dans la mer. Or, un jour, alors qu'il est assis en train de méditer sur la plage d'Ostie, en levant les yeux, il voit un enfant avec un récipient faire un trou dans le sable, et avec ce même récipient, s'approcher de l'eau, remplir le seau d'eau et jeter l'eau dans le trou qu'il venait de faire. Et faire le va-et-vient, puiser l'eau de mer et le jeter dans le trou. Au bout d'un moment, Augustin interpelle l'enfant et lui dit: Petit, qu'est-ce que tu fais là? Et l'enfant lui répond: Ben, je cherche à mettre la mer dans le trou. Augustin lui répond: Mais c'est impossible. Et l'enfant répond ceci à Augustin: Pourtant, c'est ce que toi tu cherches à faire avec Dieu. Vous imaginez l'attitude d'Augustin, il doit se frotter les yeux, il dit: Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il me raconte là? Et en levant les yeux, l'enfant avait disparu. Augustin, du coup, est fragilisé. Alors, cet épisode d'Augustin, si vous voulez faire le lien avec Samuel, c'est l'appel de Samuel par Dieu. Samuel, Samuel! Mais l'équivalent dans la vie d'Augustin, c'est ce jeune enfant sur la plage d'Ostie. Là, de même que Samuel est ébranlé parce que Élie lui dit: Mais ce n'est pas moi qui t'appelle, Augustin est ébranlé. Il se lève dans tous ses états. Il va voir les chrétiens de Rome qui reconnaissent le grand Augustin qui était connu à Rome, et c'est là qu'il envoie rencontrer le grand Ambroise de Milan. Et là, en rencontrant Ambroise de Milan, Justement, Ambroise lui fait trouver la fameuse réponse que Élie a donnée à Samuel lorsqu'il lui disait, vous rappelez, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et la réponse qu'Ambroise donne au jeune Augustin, c'est de lui montrer l'enfant de la crèche, l'enfant emmailloté, en disant « Voilà ton désir d'absolu où il se trouve, dans la voie de l'enfance, dans la voie de la petitesse, dans la voie de la servitude. » Lorsque Jésus prend un enfant, le met au milieu et dit « Quiconque ne ressemble pas à cet enfant ne pourra pas rentrer, pénétrer dans le royaume des cieux. » Et là, Ambroise fait comprendre à Augustin que tout ce qui est sagesse pour le monde est folie pour Dieu, et que tout ce qui est folie pour Dieu, la voix de l'enfance, est sagesse pour Dieu. Et là, Augustin fait le lien entre l'enfant qu'il avait vu sur la plage d'Ostie, à Rome, et cette voie de l'enfance, de l'humilité, de l'humiliation par laquelle on est grandi, parce que c'est celle par laquelle non seulement on advient à soi-même, mais surtout on est rejoint par Dieu qui me cherche et on accomplit notre capacité divine d'être comme Dieu. Voilà, mes chers auditeurs et auditrices, l'importance de ce thème que nous venons d'aborder, d'introduire. Dieu te cherche, te laisseras-tu trouver, et que nous allons continuer à développer autour des verbes que je vais répéter, se connaître, se décider, discerner, résister et rester ancré dans la parole de Dieu.